Chapitre 24. Le chapitre 0. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Friedrich Hölderlin. Tribeca, 4h50 du matin. 3 heures avant la première rencontre entre Alice et Gabriel. La sonnerie du téléphone de la chambre 308 du Greenwich Hotel retentit 6 fois dans le vide avant que l'on décroche le combiné. « Allô ?» répondit une voix pâteuse émergeant d'un profond sommeil.
« La réception, Monsieur Kane. Je suis sincèrement confus de vous déranger, mais j'ai un appel pour vous. Un certain Thomas Krieg qui demande à vous parler. »
« En pleine nuit ? Mais quelle heure est-il, bon sang ?»«
Bientôt 5 heures, monsieur. Il m'a dit que c'était très urgent. »
« Ok, passez-le-moi. » Gabriel se redressa sur l'oreiller puis s'assit au bord du lit. La chambre était plongée dans le noir, mais la lumière émise par le radio-réveil laissait deviner le désordre de la pièce. La moquette était jonchée de mignonnettes d'alcool et de vêtements jetés à même le sol. La femme, endormie à côté de lui, ne s'était pas réveillée. Il eut besoin de quelques secondes pour se rappeler son nom. Elena Sabatini. Une de ses confrères de Floride, qu'il avait rencontrée la veille au lounge de l'hôtel. Après quelques martinis, il l'avait convaincue de monter dans sa chambre et ils avaient fait plus ample connaissance en vidant le mini-bar. Gabriel se frotta les paupières et soupira. Depuis que son épouse l'avait quitté, il détestait ce qu'il était devenu. Une âme errante, un fantôme à la dérive que plus rien ne freinait dans sa chute. Rien n'est plus tragique que de rencontrer un individu à bout de souffle, perdu dans le labyrinthe de la vie. La phrase de Martin Luther King lui vint immédiatement à l'esprit. Elle lui allait comme un gant.
« Gabriel ! Allô, Gabriel ! »
criait la voix à l'autre bout du fil. Le combiné collé à l'oreille, Kane quitta son lit et referma la porte coulissante qui séparait la chambre du petit salon attenant. « Bonjour Thomas. »
« J'ai essayé de t'appeler sur ton fixe à Astoria, puis sur ton portable, mais tu ne répondais pas. »«
La batterie doit être à plat. Comment m'as-tu trouvé ?»«
Je me suis souvenu que c'était la semaine du congrès annuel de l'Association américaine de psychiatrie. J'ai appelé leur secrétariat et ils m'ont dit qu'ils t'avaient réservé une chambre au Greenwich. »«
Qu'est-ce que tu veux ?»«
Il paraît que tu as été très applaudi après ta conférence d'hier sur la dimension psychiatrique de la maladie d'Alzheimer. »«
Laisse tomber les compliments, tu veux bien ?»«
Tu as raison. Allons droit au but. » Je voudrais ton avis sur une patiente.
À 5 heures du matin ? Thomas, je te rappelle qu'on n'est plus associés.
Et c'est dommage, on formait une bonne équipe tous les deux. La complémentarité parfaite du psychiatre et du neurologue.
Oui, mais c'est fini tout ça. Je t'ai revendu mes parts de la clinique.
La plus grande connerie de ta vie.
Gabriel s'énerva. On ne va pas encore avoir cette discussion. Tu sais très bien quelles étaient mes raisons.
Oui. Emménager à Londres pour obtenir la garde partagée de ton fils. Et tu y as gagné quoi ? Une mesure judiciaire d'éloignement qui t'a forcé à revenir aux États-Unis.
Gabriel sentit ses yeux s'embuer. Il se massa les tempes tandis que son ami revenait à la charge.
Tu veux bien jeter un coup d'œil à mon dossier, s'il te plaît ? Un Alzheimer précoce. Le cas va te passionner. Je te l'envoie par mail et je te rappelle dans 20 minutes.
Hors de question. Je vais me recoucher. Et ne m'appelle plus, s'il te plaît. Dit-il fermement avant de raccrocher. La baie vitrée, comme un miroir, lui renvoya l'image d'un homme fatigué, mal rasé et déprimé. Sur la moquette au pied du canapé, il retrouva son smartphone, batterie à plat, et le brancha sur le secteur. Il se rendit dans la salle de bain, passa 10 minutes sous la douche pour sortir de sa léthargie. En peignoir, il regagna le salon. Grâce à la machine à capsules posée sur une commode, il se prépara un double expresso qu'il dégusta en regardant les eaux de l'Hudson briller aux premières lueurs du jour. Dans la foulée, il se fit un autre café et alluma son ordinateur portable. Comme prévu, un mail de Thomas l'attendait dans sa boîte de réception. Que ce mec est têtu ! Le neurologue lui avait fait parvenir le dossier de sa patiente. Krieg savait que Gabriel ne résisterait pas à la curiosité de le consulter, et sur ce point, il avait raison. Gabriel ouvrit le fichier PDF et en parcourut les premières pages en diagonale. Le profil inhabituel de la patiente retint effectivement son attention. Alice Schaeffer, 38 ans, une jolie Française aux traits harmonieux et au visage clair, encadrée de mèches blondes qui s'échappaient d'un chignon. Il s'arrêta quelques secondes sur la photo et leurs yeux se croisèrent. Des iris clairs, un regard à la fois intense et fragile, un air mystérieux, indéchiffrable. Il soupira. Cette saloperie de maladie faisait des ravages chez des gens de plus en plus jeunes. Gabriel joua sur le pavé tactile pour faire défiler le dossier. D'abord des dizaines de pages de résultats d'examen et des clichés cervicaux, IRM, PET scan, ponction lombaire, qui aboutissaient à un diagnostic sans appel établi par le professeur Évariste Clouzot. Même s'il ne l'avait jamais rencontré, Gabriel connaissait le neurologue français de réputation, une sommité dans son domaine. La deuxième partie du dossier débutait par le formulaire d'admission d'Alice Schaeffer au Sebago Cottage Hospital, la clinique spécialisée dans les troubles de la mémoire qu'il avait fondée avec Thomas et deux autres associés. Un centre de recherche de pointe dans la maladie d'Alzheimer. La jeune femme y avait été admise 6 jours plus tôt, le 9 octobre, pour y subir un traitement par stimulation cérébrale profonde, la spécialité de la clinique. Le 11, on lui avait implanté le boîtier du neurostimulateur chargé de délivrer une stimulation électrique constante de quelques volts que les patients appelaient le pacemaker cérébral. Puis plus rien. Étrange. Selon le protocole, l'implantation des 3 électrodes aurait dû être effectuée le lendemain. Sans cela, le pacemaker était inutile. Gabriel terminait sa dernière gorgée de café lorsque son smartphone vibra sur le bureau.
« Tu as lu le dossier ?»
demanda Thomas. « Je suis en train. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste ?»«
Un coup de main, car je suis vraiment dans la merde. Cette fille, Alice Schaeffer, elle s'est échappée hier soir de la clinique. »«
Échappée ?»«
Elle est flic, elle sait y faire. Elle a quitté sa chambre sans prévenir personne. » Elle a réussi à embobiner les infirmières et a même blessé Caleb Dunn qui cherchait à l'arrêter.
Dunn, le gardien ?
Oui. Ce con a sorti son arme. Il s'est battu avec la fille en essayant de lui passer les menottes et c'est elle qui a pris le dessus. Apparemment, le coup est parti tout seul, mais elle s'est tirée en emportant son flingue et ses menottes.
Il est gravement touché ?
Non, la balle s'est logée dans le gras de la cuisse. Il est hospitalisé chez nous et il est prêt à ne pas prévenir les flics à condition qu'on lui file $100 000.
Tu es en train de me dire qu'une de tes malades s'est fait la malle avec une arme en blessant un agent de sécurité et que tu n'as pas prévenu la police ? T'es irresponsable, mon vieux, et tu vas finir en tôle.
Prévenir les flics, c'est mettre la justice et les journalistes au courant. On risque de se voir retirer toutes nos accréditations, ce qui reviendrait à fermer la clinique. Je ne vais pas renoncer à l'œuvre d'une vie à cause de cet abruti de gardien. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, Gabriel. Je voudrais que tu me la ramènes.
Pourquoi moi ? Et comment voudrais-tu que je fasse ?
J'ai mené mon enquête. Alice Schaeffer est à New York, et tu y es aussi. Elle s'est rendue en taxi à Portland à 9h du soir. De là, elle a pris un train, puis un bus jusqu'à Manhattan. Elle est arrivée à la gare routière ce matin à 5h20.
Puisque tu sais où elle est, pourquoi ne viens-tu pas la chercher toi-même ?
Je ne peux pas quitter l'hôpital en pleine crise. Agatha, mon assistante, est dans un avion. Elle sera à Manhattan dans 2 heures, mais je voudrais vraiment que ce soit toi qui te charges de ça. Tu as un véritable don pour raisonner les gens. Tu as un truc, une empathie, un peu comme un acteur qui...
C'est bon, ne recommence pas avec tes compliments. Comment es-tu certain qu'elle est toujours à New York ?
Grâce au récepteur GSM que l'on implante dans la semelle des patients. Je l'ai localisée sur notre application. Elle est au beau milieu de Central Park, dans un endroit boisé qu'on appelle le Ramble. Apparemment, elle n'a plus bougé depuis une demi-heure. Donc, soit elle est morte, soit elle dort, soit elle a balancé ses godasses. Bon sang, Gabriel, va juste faire un tour, je te le demande en tant qu'ami. Il faut qu'on la retrouve avant la police.
Kane prit quelques secondes pour réfléchir.
Gabriel, tu es encore là ?
S'inquiéta Thomas. Dis-moi davantage sur elle. J'ai vu qu'il y a 4 jours, tu lui as implanté un générateur sous-cutané ?
Oui,
confirma Craig.
Le dernier modèle en date, complètement miniaturisé, à peine plus grand qu'une carte SIM. Tu verrais ça, c'est impressionnant.
Pourquoi ne pas avoir procédé à la deuxième partie de l'intervention et installé les électrodes ?
Parce que du jour au lendemain, elle a complètement pété les plombs. Elle était en totale dénégation de la réalité. Si tu ajoutes ça à l'amnésie...
C'est-à-dire ?
Schaeffer souffre d'une sorte d'amnésie entérograde reposant sur le déni de sa maladie. Son esprit fait l'impasse sur tous les faits postérieurs à l'annonce de son Alzheimer.
Elle ne stocke plus de nouveaux souvenirs.
Plus aucun depuis une soirée arrosée qui a eu lieu il y a une semaine, juste après que Clouseau lui a annoncé le diagnostic. Chaque matin, à son réveil, sa mémoire se réinitialise. Elle ne sait pas qu'elle est malade et croit que la veille, elle faisait la fête sur les Champs-Élysées. Elle a aussi oublié qu'elle était en arrêt maladie depuis 3 mois.
Gabriel relativisa. On sait que le déni et la disparition de la mémoire à rebours font partie des caractéristiques de la maladie.
Sauf que cette fille n'a pas l'air malade du tout. Elle est agile intellectuellement et c'est un sacré caractère.
Gabriel poussa un long soupir de résignation. Personne ne savait mieux que Craig piquer sa curiosité. Et à l'évidence, le cas de cette fille était une énigme. Bon, d'accord. Je vais aller voir si je la trouve.
Merci, vieux, tu me sauves.
S'emballa Thomas. Mais je ne te promets rien, précisa Kane.
Tu vas y arriver, j'en suis certain. Je t'envoie les coordonnées exactes sur ton portable. Appelle-moi dès que tu as du nouveau.
Gabriel raccrocha avec la désagréable sensation de s'être fait avoir. Depuis son retour à New York, il avait créé à Astoria sa propre structure médicale, spécialisée dans les interventions d'urgence psychiatrique à domicile. Il envoya un SMS à sa secrétaire pour lui demander de faire appel à son remplaçant afin d'assurer les gardes de la matinée. Puis, il enfila en vitesse ses vêtements de la veille. Jean sombre, chemise bleu clair, veste noire, trench coat mastic, paire de Converse, avant d'ouvrir la porte de la penderie dans laquelle il avait laissé sa trousse médicale. Il glissa une seringue d'un puissant anesthésiant dans une trousse en cuir. Après tout, cette fille était armée, donc potentiellement dangereuse. Il rangea la pochette dans son attaché-case et quitta la chambre. En arrivant à la réception, il demanda au portier de lui appeler un taxi. Puis se rendit compte qu'il avait laissé dans la chambre le boîtier radio qui commandait la sécurité de sa mallette. S'il s'éloignait de plus de 25 mètres du récepteur, une alarme et une décharge électrique étaient programmées pour se déclencher automatiquement. Comme son taxi arrivait, il décida de ne pas remonter dans sa chambre pour ne pas perdre de temps et confia la valise à la consigne de l'hôtel. En échange, l'employé lui remit la souche d'un ticket de consigne qui portait le numéro 127. En filigrane, les deux lettres G et H entremêlées formaient un logo discret.